bienvenue au balado Voir grand, où nous abordons les questions les plus importantes et les plus intéressantes de notre époque, en compagnie d'éminents chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales. Je m'appelle Karine Morin. Je suis la présidente et chef de la direction de la Fédération des sciences humaines et j'ai le plaisir d'animer l'épisode d'aujourd'hui. Que ce soit en pleine campagne électorale ou entre deux scrutins, les politiciennes, politiciens et partis politiques ne quittent jamais vraiment la scène publique, qui est aujourd'hui devenue numérique. Dans cet épisode, on explore comment les figures politiques se construisent une image, captent notre attention et façonnent le débat public à travers des stratégies de marketing sophistiquées. Alors, comment font les partis pour vendre leur message politique et à quel prix? Pour nous éclairer sur le phénomène du marketing politique, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Giasson, professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval. Bienvenue, professeur Giasson. C'est un plaisir d'avoir cette conversation avec vous. J'aimerais d'abord faire un survol de votre développement de carrière. Vous avez un bac en journalisme de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, puis vous y avez aussi fait une maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal. C'est pendant ces études que vous avez travaillé à Radio-Canada, mais il me semble que cette expérience vous a laissé un peu sur votre appétit puisque vous êtes retourné aux études pour compléter un doctorat en sciences politiques. Et tout cela vous a ultimement mené à l'Université Laval. Dites-moi un peu si, lors de ce parcours, il y a eu un moment, ou peut-être plus qu'un moment, où vos intérêts se sont cristallisés et où votre domaine d'expertise en marketing politique a commencé à prendre forme.
Oui, il y a deux moments, je pense, dans ma carrière, dans l'amorce de ma carrière, la période formative, mes études, où j'ai pris conscience de mon intérêt à étudier la communication politique. Au départ, ça s'est vraiment fixé comme ça. Le premier moment, c'est donc quand j'ai intégré Radio-Canada comme journaliste surnuméraire à la rédaction des bulletins de nouvelles. Donc, on est au tournant des années 2000. C'est pas une période qui est très, très reluisante pour les médias déjà à l'époque. C'est une période difficile. Il y a des coupures de postes un peu partout. Le poste auquel j'ai accès, c'est donc ce poste de rédacteur de nouvelles surnuméraire. Et donc, je travaille dans des horaires très atypiques. On entre au bureau très tôt à la salle de nouvelles. On a beaucoup, beaucoup d'affectations à traiter. C'est un peu l'usine à saucisses, en fait. Ça m'a beaucoup choqué de voir à quel point il fallait être dans la rédaction, dans l'action, et qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace qui était aménagé pour la réflexion. C'était pas mon travail, c'était le travail des journalistes qui nous envoyaient des choses et que nous, on devait ensuite adapter en fonction des formats, des bulletins de nouvelles et parfois même des lecteurs de nouvelles pour lesquels on rédigeait les nouvelles. Ça m'a un peu surpris, puis ça m'a un peu... ça m'a fait perdre un peu mes illusions par rapport à la profession journalistique, à ce qu'on m'avait enseigné à l'université, les principes, les valeurs. Parallèlement à ça, je commençais ma maîtrise, je poursuivais ma maîtrise, et dans le cadre de ma maîtrise, j'ai étudié la jonction entre la communication, l'élaboration d'une campagne et sa couverture dans les médias. J'ai étudié la construction de l'agenda médiatique pendant la campagne référendaire de 1995 pour essayer de voir qui des deux camps politiques ou des deux médias que j'étudiais, qui étaient deux grands journaux, donc La Presse et Le Devoir, essayer de voir un peu qui menait l'agenda référendaire. Est-ce que c'était des primeurs que les médias présentaient ou est-ce qu'on était un peu à la remorque de ce que les camps présentaient dans leurs communiqués de presse, dans leurs activités du jour pendant la campagne. Ma première prise de contact avec la communication politique, elle se fait dans le cadre de ce travail-là. Et la personne qui m'encadre à ce moment-là, qui est un professeur fantastique, qui s'appelle Richard Nadeau, professeur à l'Université de Montréal, me suggère de poursuivre au doctorat. Et donc, j'engage des études doctorales un peu à la suite et je décide de quitter aussi le journalisme. Je me rends compte que le journalisme, finalement, dans cette formule-là, c'est pas pour moi. J'aurai une autre affectation à Radio-Canada. Je vais travailler pour les médias numériques, à rédiger des reportages multimédia. Et là, c'était des formats que j'appréciais, où je pouvais faire de l'analyse. Je faisais mon travail de journaliste. J'étais pas juste rédacteur de nouvelles. Malheureusement, ce poste-là a été aboli après un conflit de travail à Radio-Canada. Et donc, j'ai décidé de poursuivre et de finir mes études doctorales. Et j'ai fait ma thèse sur les débats télévisés. J'ai travaillé, j'ai interrogé des stratèges qui préparaient les politiciens, et certains de ces stratèges-là m'ont parlé du marketing politique. Mon directeur aussi, évidemment, m'en parlait. Et donc, j'ai creusé cet aspect-là, là, des pratiques de marketing politique dans le cadre de ma thèse, et ensuite dans des collaborations qui vont se développer là, dans les premières années de mon travail comme professeur d'université.
Je vais très bientôt en venir à définir c'est quoi le marketing politique, mais juste avant ça, est-ce que je peux vous poser la question par rapport à des intérêts qui me semblent pan-canadiens? Et s'il y a là un choix où ça évolue peut-être par rapport à des collaborations, vos intérêts sont au-delà de la politique au Québec, vraiment une perspective pan-canadienne. Est-ce qu'il y aurait une explication derrière ça?
C'est une bonne question. Ben, j'ai fait mon mémoire sur un moment politique très important au Québec, sur l'élection référendaire de 95. Dans le cadre de mon doctorat, j'ai étudié une campagne fédérale, l'élection fédérale de 2000. J'ai discuté avec les politiciens qui ont pris part au débat, qui se sont tenus dans le cadre de cette élection-là. J'ai parlé à leurs consultants, à leurs conseillers, aux stratèges qui les ont accompagnés. J'ai été socialisé aussi dans ma famille, même si mes parents sont souverainistes, je peux le dire, là. Et tous les étés, on voyageait à travers le Canada. Il y avait des grands congrès, des différentes commissions sur de prévention des accidents du travail. Et mon père représentait souvent avec d'autres personnes la commission québécoise, et on se joignait à lui, les enfants. Donc moi, j'ai beaucoup voyagé à travers le Canada. J'ai une appréciation pour ce que ce pays-là représente, mais j'ai aussi un intérêt pour la politique canadienne, parce que selon moi, c'est un espace politique qui dicte beaucoup de choses, et qui dicte entre autres ce qui peut se passer au niveau provincial. Et puis en politique québécoise, on a énormément de liens avec le gouvernement fédéral. On a plusieurs ententes que certaines autres provinces vont pas avoir. Donc, pour moi, c'est intéressant aussi d'étudier la réalité canadienne plus large, puis la réalité politique canadienne, les élections fédérales canadiennes. J'ai aussi travaillé comme auxiliaire de recherche, alors que j'étais à la maîtrise, au doctorat, auprès de l'étude électorale canadienne.
Là, je sais bien que vous enseignez des cours complets sur ce qu'est le marketing politique. Mais pour un balado, ça se résume à quoi? Ça s'explique comment, le marketing politique?
Bien, ça peut s'expliquer assez simplement. C'est-à-dire que le marketing politique, c'est l'application des principes qui guident le marketing commercial à l'activité politique, à la sphère politique. Et ces principes-là, en fait, la base, le principe central qui accompagne cette philosophie-là, c'est qu'on doit d'abord élaborer une offre en fonction des besoins qui existent dans un marché que l'on tente d'investir. Donc, le marché, c'est l'électorat dans l'espace politique canadien. Les besoins, ce sont les besoins qu'expriment les électeurs. Et donc, l'objectif, c'est de comprendre qui compose l'électorat, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce qui est important pour eux. Et ensuite, c'est de tenter d'identifier dans ce marché-là des segments du marché, des profils d'électeurs qui partagent avec les électeurs militants, les sympathisants d'un parti, des valeurs, des aspirations, des besoins, mais qui ne votent pas nécessairement pour le parti qui tente de les rejoindre. Donc, l'objectif, c'est d'identifier ces segments-là qui sont proches, les électeurs qui composent notre base d'appui naturel, et de développer une offre politique, un programme politique qui va leur parler. Donc, de se positionner comme formation politique sur des enjeux qui sont importants pour ces électeurs-là, leur proposer des promesses sur ces enjeux-là qui répondent à leurs aspirations. Donc, de faire une offre politique qui est, je dirais, plus nichée, plus spécialisée, plus ciblée, et de la communiquer ensuite. Donc, le marketing politique, c'est l'utilisation de principes, de techniques qui sont utilisés, développés dans le marketing commercial, de l'appliquer à l'élaboration d'offres politiques et de le faire dans un contexte, habituellement un contexte électoral, mais les gouvernements font aussi du marketing une fois au pouvoir. Donc, c'est ça. Ça se fait en deux temps. Il y a un temps plus stratégique où on élabore une stratégie on fait une recherche sur le marché, on segmente l'électorat en profil, on cible les profils qu'on juge intéressants, on identifie aussi les profils qui n'ont pas de probabilité de voter pour le parti, et puis on positionne une offre. Donc, on développe une offre sur des éléments qui sont importants pour les groupes qu'on aura ciblés. Puis, dans un deuxième temps, on va engager ce qu'on appelle le marketing tactique, donc l'opérationnalisation. On va penser les messages, on va penser la stratégie de diffusion, on va travailler sur la communication de la proposition, de la plateforme du positionnement. Et tout ça, ça va se décliner ensuite dans des moyens de communication spécifiques qui se déroulent dans une campagne électorale. Donc, il y a deux temps, puis il y a différentes étapes que les partis vont suivre habituellement pour mener l'exercice de marketing politique.
Ce qui garde bien des gens très occupés à temps plein, qu'il y a des élections ou pas, on peut croire.
Voilà, exactement.
Donc, si on regarde un peu là, vers la fin de ces stages, il y a cette dissémination qui doit se faire, cette communication qui se fait par l'entremise de différents médias. Puis là, j'aimerais ça qu'on n'oublie pas tout de suite les médias traditionnels. Vous pourriez dire aujourd'hui un peu comment est-ce que, qu'est-ce qui demeure les médias traditionnels, quelle est leur importance relative aujourd'hui pour les partis politiques en campagne électorale particulièrement?
Ouais, donc l'objectif pour un parti politique, c'est de communiquer, d'entrer en contact le plus directement possible avec les segments qu'il a identifiés dans la phase de marketing stratégique. Et ça, là, tout cet exercice-là de marketing stratégique, ça se fait plusieurs mois avant le déclenchement d'une élection, en mobilisant un très gros volume de données, des données de toutes sortes. Mais l'objectif final, c'est de faire sortir les gens le jour du vote pour nous, les gens qu'on a identifiés, et que pendant la campagne électorale, ils aient accès à notre message, le message qu'on a développé pour eux spécialement, pour répondre à leurs besoins, à leurs aspirations. Et donc, on va concevoir un plan de diffusion, un plan médiatique, un plan de diffusion média, un plan de communication pour rejoindre ces gens-là. Certains de ces gens-là utilisent les médias traditionnels encore aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont utiliser pour s'informer des plateformes de médias sociaux numériques, mais il ne faut pas perdre à l'esprit qu'il y a encore des milliers de Canadiens, des centaines de milliers de Canadiens qui consomment les médias traditionnels. Les supports vont changer, le support à partir duquel on accède à l'information qui est produite par une organisation journalistique professionnelle et puis traditionnelle, mais le fait de s'informer par le biais de l'information journalistique, c'est encore très important pour des centaines de milliers de Canadiens. Donc, de penser que l'ensemble des Canadiens s'informent sur les médias sociaux numériques, ben c'est pas vrai. Il y a des Canadiens qui s'informent principalement là. Il y a des Canadiens qui sont exposés de manière accidentelle à de l'information parce qu'ils ont peu d'intérêt pour la politique. Ils s'informent donc peu sur la politique, mais ils vont voir une nouvelle passer, un membre de leur réseau ou des gens qui les suivent vont partager sur leurs réseaux sociaux. Là, c'est compliqué de le faire, par exemple, sur Meta parce que Facebook a décidé de ne pas respecter la réglementation canadienne. Donc, Facebook ne nous permet plus de partager l'information qui est produite par les médias canadiens sur ces plateformes. Mais néanmoins, on peut le faire sur d'autres plateformes. Donc, il y a encore une proportion significative d'électeurs qui s'informent par le biais des médias, par le biais de l'information qui est produite par les médias traditionnels. Je dirais ça comme ça. Mais pas nécessairement sur des supports traditionnels.
Donc, on décrit définitivement une situation où ce ne sont pas deux mondes que de parler de médias traditionnels, médias sociaux. Il y a des choses qui vont être produites pour un des médias, mais qui peuvent se retrouver sur, entre autres, les médias sociaux. Maintenant, avec cette arrivée-là des différentes plateformes numériques, on parle Facebook, on parle de Twitter qui est devenu X, on parle nouvellement de Blue Sky, on parle d'Instagram. Pour d'autres, on parle de YouTube, TikTok, il y en a plusieurs. Comment est-ce que vous caractérisez quand même l'utilisation de marketing politique sur ces réseaux et médias sociaux de ces types-là? Qu'est-ce que ça représente de plus?
Bien, c'est central. C'est devenu depuis à peu près 10 ans des espaces de communication que les partis ont tous investis. Les gens qui sont des stratèges numériques qui conseillaient qui conseille encore les campagnes pour déterminer les bons axes et les bonnes plateformes sur lesquelles communiquer sont au cœur de l'organisation des campagnes. Ils sont dans les war rooms. Les campagnes sont pensées de façon intégrée pour les médias traditionnels et les médias sociaux numériques parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ne consomment plus aussi les médias traditionnels. Puis certains partis veulent pouvoir entrer en contact avec eux. Donc, on doit aussi trouver des créneaux de communication par lesquels on peut échanger avec eux. Donc, on va parfois, pour certains segments de l'électorat, des gens qui sont peu intéressés par la politique, peu informés par la politique, mais qui vont utiliser abondamment les médias sociaux numériques pour se divertir, par exemple, pour suivre des célébrités, pour partager avec leur famille des informations, des jeux, eh bien, on va diffuser de la publicité auprès de ces gens-là. Donc, c'est très important pour les partis d'utiliser ces médias-là pour pouvoir parler aux segments à qui ils veulent parler et qui se retrouvent à utiliser ces plateformes-là pour d'autres raisons que le fait de s'informer et de suivre la politique. Donc, on va tenter de créer de l'exposition accidentelle à des messages en diffusant de la publicité ciblée sur les plateformes de médias sociaux.
Donc, on reconnaît là tout à fait un avantage pour les partis politiques, mais qu'est-ce que vous diriez de l'électorat? Qu'est-ce que ça peut représenter pour eux que cette information-là apparaissent sans qu'ils la recherchent nécessairement. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que les médias sociaux de perspective offrent une meilleure interaction avec le public? Est-ce que ça fait que la politique est plus accessible, plus inclusive ou plus intrusive?
La politique a toujours été intrusive. à l'époque des médias, des médias traditionnels très forts, les partis dépensaient des fortunes en publicité. Ils le font encore, hein? Diffuser de la publicité télé aux heures de grande écoute. L'objectif de la publicité, c'est la raison pour laquelle on en fait, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va y être exposé. C'est de l'exposition accidentelle. Il y a des gens qui zappent pendant les pubs, il y a des gens qui se lèvent, qui vont faire autre chose pendant les pubs. Il y a des gens qui restent devant leur téléviseur puis qui écoutent les pubs. Il y a de la pub radio aussi que les partis vont faire. Il y a de la pub imprimée dans les journaux. Il y a de la pub sur des babillards. Donc, on y est exposé un peu tout le temps. Le grand avantage pour les partis politiques, c'est l'hyper-ciblage que les plateformes de médias sociaux peuvent faire et de cibler des tout petits segments de l'électorat. Donc, on peut décider de parler aux femmes de, je dis n'importe quoi, là, de 34 à 38 ans qui vont vivre dans tel et tel endroit et seulement ces personnes-là vont être exposées à des messages. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça crée des micro-publics. Ça crée des micro-campagnes qui fait qu'on n'a plus accès sur les médias sociaux numériques à une campagne nationale qui est uniforme. On est exposé à des messages qui sont potentiellement différents de ceux auxquels vont être exposés nos parents, nos voisins, nos collègues de travail. Donc, il y a comme un enjeu d'accès à l'information qui est problématique. Puis, à partir du moment où on cible certains segments de l'électorat, on n'en cible pas d'autres. Et donc, la représentation des intérêts, des besoins, des aspirations de ces autres électeurs qu'un parti ne juge pas intéressants à des fins électorales ne sont pas représentés. On ne leur parle pas à ces gens-là. Et donc, les gens n'ont pas accès à toute la campagne d'un parti politique. Pour moi, c'est un énorme problème parce que ça mène, en fait, à des enjeux de représentation des intérêts qui sont le cœur de notre système politique, qui est un système de démocratie de représentation où l'ensemble des partis sont censés représenter une diversité d'intérêts, défendre une diversité d'intérêts et développer des politiques publiques qui répondent à une diversité d'intérêts, pas seulement à des intérêts nichés. Et depuis, malheureusement, une vingtaine d'années au Canada, c'est ce à quoi on est exposé en ce moment.
Je vous entends parler là, de tensions qui vous préoccupent. On tombe un peu dans les aspects éthiques, j'imagine, du marketing politique, en expliquant comment les partis vont aller chercher là, des profils puis viser avec assez de précision là, le type de personnes auxquelles ils veulent s'adresser ou les personnes, vous dites presque les personnes auxquelles ils veulent s'adresser. Est-ce que vous êtes préoccupé par la collecte de l'utilisation des données personnelles? Est-ce qu'il y a là une menace pour la vie privée qui vous agace?
Ah oui, c'est une énorme préoccupation pour moi parce que si on revient à la phase de marketing donc stratégique où les partis colligent des données, analysent la composition d'électorat les partis utilisent énormément de données personnelles sur nous. Qu'Élections Canada et Élections Québec, Élections Ontario donnent accès aux partis politiques à l'ensemble des données qui sont au cœur de la liste électorale permanente. Donc, les partis utilisent ça, intègrent ça dans des bases de données qu'ils vont traiter par des processus d'analyse statistique, des régressions logistiques, mais aussi maintenant beaucoup par des processus algorithmiques pour développer des profils. On va pairer à ça des données de consommation. Donc, il y a des entreprises qui vendent des données sur les consommateurs, sur leurs consommateurs, à toutes sortes de clients. On sait que dans le passé, par exemple, le Parti conservateur du Canada a acheté des données de ce type-là. Ça a été présenté, par exemple, par Suzanne Delacour dans son livre « Shopping for Votes ». Et tout ça, ce n'est pas balisé par la loi électorale au Canada. Il y a très peu de balises, contrairement à ce qu'on observe en Europe ou même en Colombie-Britannique. La seule juridiction où les partis sont soumis à des balises très claires en termes de collecte, de gestion d'informations qui sont très rigides, qui s'inspirent du RGPD, donc du Règlement général sur la protection des données en Europe, c'est la Colombie-Britannique. Et ce qui est particulier, c'est que ça s'applique à tous les partis qui font campagne et qui recueillent des données sur les citoyens de la Colombie-Britannique, que ce soit pour une élection provinciale, municipale ou fédérale. Et les partis fédéraux ont contesté cette loi-là devant les tribunaux pour tenter de la faire invalider parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur impose des balises. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de balises en ce moment dans la loi électorale fédérale. Et au Québec, de 2020 à 2021, le gouvernement du Québec a présenté un projet qui visait à moderniser l'ensemble du périmètre de réglementation d'utilisation des données par toutes les organisations qui recueillent des données personnelles sur les Québécois, incluant les partis politiques pour la première fois. Et les parlementaires se sont votés une trentaine d'exemptions à l'application de la loi, ce qui fait que la loi ne s'applique pas. Une loi qui s'applique à toutes les autres organisations qui collègent des données, ces articles-là ne s'appliquent pas aux citoyens québécois. Donc, les partis peuvent encore faire ce qu'ils veulent. Il y a un énorme problème, les partis sont en conflit d'intérêts, ils ne veulent pas qu'on balise leur façon de faire, qui, à partir du moment où elles ne sont pas ou mal balisées, permettent des abus, permettent des fuites, permettre des enjeux de vol d'identité. On l'a vu, là, il y a des grandes organisations dont leurs données ont été compromises. Et les partis politiques ont certainement pas les ressources nécessaires pour protéger les bases de données énormes qu'ils possèdent sur nous. Donc moi, ça me préoccupe énormément, évidemment, comme citoyen. Ça me préoccupe aussi comme chercheur. Je dois vous avouer que j'étudie la réalité québécoise depuis un an maintenant, puis on est en train d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Ça m'a mis énormément en colère, en fait. C'est la première fois comme chercheur où j'ai été en colère par rapport à quelque chose que j'observais. Et c'est un sentiment un peu étrange avec lequel composer, d'avoir à se réguler, puis à trouver une façon posée de parler d'un enjeu qui est excessivement problématique, selon moi, et pour l'ensemble des Canadiens. Puis les Canadiens n'ont pas l'air d'être conscients de l'impact potentiel que ça peut avoir sur leur vie.
J'ai l'impression, effectivement, qu'on parle peu de ça comparativement à l'autre sujet que je voudrais aborder brièvement. Mais vous avez fait référence tantôt à Meta, qui opère Facebook, aussi Instagram. Et eux ont décidé d'assouplir la modération de contenu discriminatoire et haineux même. Est-ce que vous êtes préoccupé aussi de voir que, vous disiez, là, il n'y a pas de balise par rapport à ce que les partis politiques peuvent faire, on laisse les médias sociaux aussi gérer comme bon il leur semble ces débats politiques, ces questions politiques, ces présentations politiques? Est-ce que ça aussi peut, entre autres, selon vous, apporter une radicalisation ou polarisation du débat et que on laisse ça aller parce que c'est le libre marché des idées politiques?
C'est une bonne question. Il y a des principes qui s'opposent, la liberté d'expression, le libre marché, le libre choix aussi, le choix d'accéder à une plateforme ou de décider de ne pas y accéder, de joindre une plateforme ou de ne pas y joindre. Moi, je pense que à partir du moment où un parlement et les élus d'un parlement mettent en place des politiques qui ont pour objectif de protéger les médias et invitent les grands groupes, les grandes plateformes de médias sociaux numériques à contribuer à la production d'informations qu'ils relaient abondamment sur leur plateforme et desquels ils tirent des revenus publicitaires, puis qu'on leur demande de partager une partie de leurs revenus publicitaires avec les gens qui produisent le contenu qu'ils relaient, et qu'une une énorme entreprise refuse de le faire, ça devrait d'emblée imposer un devoir de réserve par rapport à cette plateforme-là. Et les partis politiques, dont les représentants ont voté cette loi, devraient s'imposer de ne pas acheter de publicité et de ne plus avoir de relations transactionnelles avec cette plateforme-là. Pour revenir à la question sur la polarisation, oui, clairement, il y a des plateformes qui tirent des profits de cette... Ce sont des entreprises à but lucratif, là, les plateformes. Donc, quand il y a du débat, de la polarisation, en anglais, on dit du drama, ça capte l'attention. Il y a plein de recherches qui montrent ça. Donc, on dit tous qu'on est pour la civilité, qu'on veut avoir des comportements cordiaux, respectueux, mais dès qu'on est exposé à des choses qui sont violentes, agressantes, hors de l'ordinaire, il y a des gens que ça captive et qui entretiennent ces discussions-là, et ça crée dans des entreprises à but lucratif de la circulation, de la viralité et des revenus. Donc, il n'y a pas d'incitatif pour, encore une fois, ces grandes entreprises-là à bien modérer ce qui se passe sur leur plateforme, parce que ça génère de la circulation, ça génère du trafic, ça génère des clics et ça génère des revenus. Donc, il y a donc l'architecture économique de ces plateformes-là qui vient contrecarrer les assises démocratiques de notre société, puis je dirais de nos sociétés. On a évidemment des lois qui protègent contre la diffamation et contre les bris en matière de sécurité. Là, ce sont des exemptions qui sont jugées valides par les tribunaux pour limiter la liberté d'expression, mais néanmoins, logiquement, on devrait être capable, comme société, d'imposer à ces entreprises-là un certain nombre de principes qui assurent des échanges cordiaux, des échanges respectueux sur la politique et sur notre vie sociétale, parce qu'il y a plusieurs personnes qui fréquentent ces médias-là pour pas pour s'informer, pour se divertir, mais qui sont informés par la bande.
Je vous entends proposer, ou du moins démontrer même, qu'il est temps d'une réforme importante. Pensez-vous que ça va venir par l'entremise des avancées technologiques de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça serait peut-être là votre espoir de croire que des changements importants pourraient être faits à la réglementation de ces médias, ou alors de comment ils sont utilisés par les partis politiques, comment ils sont utilisés pour le marketing politique? Avez-vous espoir de réforme?
Je suis assez peu optimiste, honnêtement. Je regarde l'intelligence artificielle, je regarde les possibilités qui s'ouvrent aux partis politiques pour produire des messages, produire de la communication. Je vois les dérives qui se sont déroulées dans d'autres juridictions où il y a très peu de réglementation électorale et où il ne semble pas y avoir un besoin. On peut penser aux élections en Argentine, aux élections au Brésil, aux élections aux États-Unis. Donc, quand même a priori, des grandes démocraties qui ont de la difficulté à composer avec ça. On semble pas voir à grande échelle, pour l'instant, dans le cadre de cette élection-ci, des utilisations, je dirais, frauduleuses, fallacieuses de l'intelligence artificielle pour diffuser des messages. Et il y a, encore une fois, de nombreuses micro-campagnes qui se déroulent en même temps. Donc, c'est un peu embêtant. Si le passé est garant de l'avenir, on est mal parti. Et je ne pense pas qu'il y ait à l'intérieur des partis politiques, parce que ça fait quand même 10 ans que je parle de ces choses-là, à des parlementaires aussi, et je ne vois pas les choses changer. Et ça m'inquiète beaucoup. Et les organismes de régulation électoraux semblent avoir de la difficulté à imposer aux partis politiques des balises qui vont nous protéger un peu mieux.
Il demeure important que tous et toutes, on soit vigilants dans notre consommation d'informations politiques.
Puis, objectivement, gardons espoir parce que les classes politiques se transforment, se changent. Puis, l'expérience en Colombie-Britannique nous montre qu'il y a des politiciens, il y a des élus qui ont à cœur de défendre les intérêts la vie privée, les données personnelles de leurs électeurs. Puis ça, c'est important, je pense, à garder à l'esprit.